Seigneur, tu nous as donné ce livre qu'on appelle la Bible, un livre merveilleux. Même si on y trouve toutes sortes d'horreurs, toutes sortes de choses, d'atrocités, de récits épouvantables, parce que ce sont les faits des hommes, Seigneur. Mais parce que nous y trouvons, au milieu de toutes ces horreurs, qui se répètent depuis et encore à toujours, au milieu de toutes ces horreurs, tu es présent et sans perdre patience, avec une fidélité à toute épreuve, tu nous expliques ton amour, tu nous expliques ta grâce en Jésus-Christ. Alors Seigneur, véritablement nous voulons ouvrir tout grand nos oreilles, mais nous avons vraiment besoin de ton esprit pour éclairer le notre âme, de façon à ce que nous puissions vraiment être au bénéfice de ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le texte de l'Ancien Testament. Traditionnellement, chaque dimanche, on a un texte de l'Ancien Testament, un texte dans l'Évangile, et un troisième texte, généralement dans les Épîtres, ou éventuellement l'Apocalypse, ou les Actes des Apôtres. Alors c'est le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham, ça se trouve dans Genèse au chapitre 22, et nous lirons donc de 1 à 18. Donc chapitre 22, Genèse 22, de 1 à 18. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père ». Il lui répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Voilà, texte très connu. Il est question d'obéissance aujourd'hui, l'obéissance d'Abraham. Alors, très certainement, on ne peut pas évoquer ou lire ce texte sans, évidemment, faire le rapprochement entre ce récit et puis le sacrifice du Christ. N'est-ce pas? C'est une image, le sacrifice d'Isaac par Abraham est évidemment une préfiguration de ce que Dieu va faire avec son propre fils. À la différence près que si un ange est venu arrêter le geste fatal d'Abraham, eh bien évidemment dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ, lui, ira jusqu'au bout du sacrifice, jusqu'à la mort. Alors, donc, Isaac tient le rôle de Jésus dans cette histoire. C'est le fils sacrifié. Mais finalement, je me suis dit qu'on peut voir une préfiguration du Christ, une image de Jésus, dans beaucoup plus que Isaac, dans d'autres acteurs de ce récit, à commencer par le bélier, qui, ce pauvre bête qui se retrouve prise par les cornes dans un buisson, nous dit le texte, dans le sens où cet animal, à un moment précis, vient se substituer à celui qui devait être égorgé, sacrifié, brûlé en Holocauste. Il vient prendre la place d'Isaac. Et donc, n'est-ce pas, là, une magnifique image de Jésus qui vient dans le monde pour mourir à la place de ceux qui devaient mourir, c'est-à-dire tous les hommes, pécheurs. Je vois également une image intéressante de Jésus-Christ en Abraham lui-même. Et bien précisément par ce côté, enfin cette qualité qu'Abraham démontre ici, il s'appelle l'obéissance. Et quelle obéissance ? Alors donc, c'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, on va parler d'obéissance. Quand on pense à l'obéissance dans l'Ancien Testament, on fait tout de suite le rapprochement avec toutes ces lois, vous savez, qu'on peut lire dans le Lévitique, dans les Nombres, dans l'Exode même, ou dans... qu'est-ce qu'il y a comme livre qui le Lévitique, l'Exode, les Nombres, le Deutéronome. Alors attention, ne mélangeons pas les choses, parce que Abraham, c'est... Abraham intervient 5 siècles à peu près, à la louche, 500 ans à peu près, avant Moïse. Et donc, effectivement, au moment où le peuple des Hébreux va sortir d'Égypte et arriver au Sinaï, Dieu va donner des lois. Alors, si vous voulez tout le détail, allez-y, il y en a pour un moment de lecture. Tout le détail des lois avec beaucoup de précision. Une loi, j'allais dire, très contraignante, très, très sévère, très précise. Mais avec Abraham, donc je répète, Abraham, 500 ans plus tôt, il ne s'agit pas du tout, Dieu ne lui donne pas précisément une loi à observer, à respecter. Dieu conclut une alliance avec Abraham. C'est assez différent. Une alliance, c'est une sorte de contrat. Il y a deux parties qui souhaitent être alliées, donc chacun s'engage. Alors Dieu, de son côté, lui s'engage par toutes sortes de promesses. Promesse de donner à Abraham un magnifique pays pour lui et sa descendance, un bon pays, nous est-il dit dans l'Écriture. La promesse d'une descendance, précisément, pour peupler ce pays, parce qu'au moment de cette alliance, Abraham n'a pas de fils, sa femme est stérile, et puis tous deux commencent à être, comme il est dit dans la Bible, très avancés en âge, donc... Il s'agit bien d'une promesse de miracle de la part du Seigneur. D'autres promesses. Et Abraham, de son côté, lui, s'engage à obéir. Mais obéir de quelle façon? Puisqu'il n'y a pas de loi, Dieu ne lui donne pas des commandements, ne lui donne pas des ordres. Eh bien, c'est quand même une obéissance, mais on va dire non pas sous la contrainte, mais plutôt dans la confiance. C'est-à-dire que Dieu demande, par cette alliance, demande à Abraham de faire un effort conséquent de confiance. Pars, va-t'en, laisse ton pays, va-t'en, prends toutes tes affaires et va-t'en vers un pays que je te montrerai. Il ne sait même pas où il va. N'oublions pas que Abraham était chez lui en Chaldée, donc du côté de Ur, en Chaldée. Il avait des richesses, des troupeaux, il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et là, Dieu lui dit, pars, je te montrerai le chemin. Il fallait quand même une sacrée dose de confiance envers Dieu pour obéir à Dieu, n'est-ce pas? Donc, effectivement, Abraham, dans cette attitude qu'il a d'obéissance, est une image de Jésus-Christ qui, lui aussi, va être obéissant. Alors, l'Évangile nous dit dans un texte, une épître, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, et celui qui a écrit cette épître rajoute « et même jusqu'à la mort sur une croix », ce qui nous vient dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire une mort infâme, une mort avec en plus un rejet et une condamnation de la part des hommes. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Il ne faut pas croire que c'était évident, parce qu'on se dit « oui, mais Jésus, finalement, il savait bien la suite, il savait qu'il allait ressusciter. » Alors évidemment, c'était un mauvais moment à passer, mais bon, c'est une mauvaise piste. C'est une fausse piste parce que je crois sincèrement que Jésus a été vraiment, autant il était vraiment 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme, et il n'a jamais mélangé les deux. Vous savez, quand Jésus, il y a tout plein d'exemples dans la Bible, quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il pleure parce que son ami est mort, alors qu'il va le ressusciter dans 5 minutes. Alors on se dit, c'est quoi, des larmes de crocodile, là, c'est quoi, de la simulation? Pas du tout. Quand Jésus pleure, il est 100% homme, et il pleure devant la mort, comme nous pleurons tous devant le disparu, dans le deuil. Et après, il est Dieu, il ressuscite Lazare. De même, pourquoi Jésus se serait-il écrié sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quoi? C'est une formule comme ça, théâtrale, une façon de s'exprimer? C'est pas du tout. Jésus est, à ce moment-là, pleinement dans l'interrogation. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Et moi, je n'ai pas peur de dire que Jésus ne comprend pas. Jésus est dans le doute. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est 100% homme au moment où il dit ça. Voilà. C'est l'obéissance de Jésus n'est pas une obéissance de pure forme. C'est une obéissance profonde. Mais là aussi, ce n'est pas une obéissance sous la contrainte. Vous voyez, je vous ai expliqué ça pour Abraham. Abraham, ce n'était pas une loi qu'on lui a donnée, c'est une alliance. Donc, il n'était pas obligé, Abraham. Il aurait pu dire, écoute, Seigneur, t'es bien gentil, mais là, j'ai tout ce qu'il faut là chez moi. Tant pis si j'ai pas de descendance, je peux aller avec une autre femme, j'en aurai d'autres, des enfants, etc. Enfin, il n'était pas obligé. S'il obéit, c'est dans la confiance et non pas par contrainte. Eh bien, Jésus, de la même façon, Jésus a obéi du début à la fin dans la confiance. C'est-à-dire qu'il croyait véritablement tout ce que lui avait promis le Père. D'ailleurs, Jésus dit... Il dit à un moment donné, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'y vais délibérément. Et il y a un autre indice, un autre passage au moment de l'arrestation de Jésus. Vous savez que Pierre essaye de s'interposer, désespoir de cause, il sort son épée, il essaye d'arrêter le processus, quoi. Hein. Et puis Jésus l'arrête, il lui dit, rentre ton épée. Si j'avais voulu être sauvé, j'ai juste un mot à dire pour qu'une armée d'anges vienne me défendre. Donc Jésus prouve délibérément que c'est délibérément qu'il donne sa vie, qu'il obéit à Dieu. Il n'est en aucun cas sous aucune contrainte. Alors ça m'a intéressé aussi bien chez Abraham que chez encore plus chez Jésus, bien sûr. C'est cette forme d'obéissance. Est-ce qu'on peut encore parler d'obéissance? Parce que c'est vrai qu'obéir, c'est toujours par rapport à un règlement, une loi, quelque chose qui est imposé. Là, c'est une obéissance dans la confiance. C'est un élan de confiance absolue. Je pourrais vous prendre un exemple négatif, parce que dans le fond, vous allez comprendre, l'obéissance n'est pas toujours une vertu. Ça devait être en 1945, juste après la guerre, il y a eu lieu le procès de Nuremberg. connaissez le procès dans lequel ont été jugés les principaux chefs nazis, ceux qui n'étaient pas encore suicidés, les presque les généraux, les maréchaux nazis, je dis bien nazis, pas allemands, nazis. Donc, on les a jugés et ils ont présenté leur défense, normale. Et comme ligne de défense principale, ils ont tous dit, ou leurs avocats ont dit, nous étions des soldats, des militaires, et à ce titre, nous n'avions pas le choix, nous étions obligés d'obéir aux ordres qui venaient de plus haut. Et effectivement, ce n'est pas une mauvaise défense, parce que dans d'autres situations, on a vu que des soldats qui avaient refusé d'obtempérer, d'obéir aux ordres, étaient passés en cour martial et au peloton d'exécution, n'est-ce pas ? Très bonne défense. Et pourtant, ils ont été jugés coupables, et donc ils ont été pendus, parce que le tribunal a décrété qu'ils avaient adhéré à l'idéologie qui procédait à ces ordres. Ils avaient pleinement fait confiance et ils avaient approuvé les ordres qui leur étaient donnés. Et ils s'en étaient même donné du plaisir, presque. Donc, vous voyez la différence entre obéir sous la contrainte, on n'a pas le choix, et puis obéir dans la confiance. Alors là, j'ai pris évidemment un exemple qui est négatif, hein, mais dans le sens positif de la Bible, eh bien voilà ce qui nous est proposé, c'est l'obéissance, non pas parce que bien obligé, contraint, forcé, mais par confiance, par amour, par foi, par la foi, tout simplement. Alors c'est l'enseignement que j'en tire pour nous aujourd'hui, c'est que, voyez-vous, autant le peuple d'Israël, depuis le Sinaï jusqu'à nos jours, enfin au moins jusqu'à Jésus-Christ, a quand même vécu, on va le dire, un peu sous la contrainte. La loi de Dieu était sévère, elle était contraignante, mais Jésus-Christ est venu apporter quelque chose, j'ai failli dire quelque chose de nouveau, non pas quelque chose de nouveau, il est venu apporter une alliance nouvelle aux hommes. Et pas nouveau parce que il y avait déjà eu une alliance avec Abraham, dans le même genre. Jésus est venu nous apporter non pas une loi nouvelle ou un surcroît de loi, mais une alliance. Et je reprends la même chose que je vous ai dit tout à l'heure avec Abraham, une alliance, c'est un contrat entre deux parties. Personne n'est contraint, personne n'est obligé de signer, n'est-ce pas ? C'est un contrat qui suppose la confiance mutuelle et réciproque. Alors, que choisissons-nous ? Puisque nous avons quand même, nous disons régulièrement qu'il faut obéir au Seigneur. Allons-nous choisir l'obéissance contrainte ou l'obéissance confiance ? Alors tout de suite, chacun se dit dans sa petite tête, oh ben moi je choisis l'obéissance à la confiance, hein, parce que c'est quand même... Attention, c'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident parce que je crois qu'on a toujours cette tentation de choisir une certaine forme, ce qu'on appelle le légalisme, vous voyez, une certaine forme de contrainte, parce que quelque part, c'est bien un petit peu confortable d'avoir des règlements, des lois, à observer, même s'il faut se donner un petit peu les moyens, se bouger un petit peu, faire des efforts pour respecter, appliquer ces règlements, ces lois, ces commandements du Seigneur, c'est très commode parce que ça nous donne l'illusion qu'on peut se mettre en règle avec Dieu. Ah, ça c'est une tentation phénoménale. Toujours chercher à qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en règle avec Dieu. Le problème, c'est que dans l'Évangile, si on lit bien, c'est qu'on n'est jamais en règle avec Dieu. On ne se met soi-même jamais en règle avec Dieu. Jésus-Christ nous a mis en règle avec son Père. Et donc, il nous propose autre chose, et il attend de nous autre chose qu'une simple obéissance stricte à des commandements pour être quitte d'une loi, voilà, et être jugé obéissant. Eh bien, il nous tend le contrat, il nous dit, voilà, t'as qu'à signer, c'est un accord entre nous. Tu me fais confiance pour diriger ta vie. Tu me fais confiance pour toute ta vie, pour tes pensées, pour tes relations, pour ton travail. Tu me fais confiance. Alors ça ressemble effectivement à une obéissance, puisque le catalogue, on l'a, hein, dans les béatitudes, on a des enseignements du Christ, etc. Donc on va obéir à ces enseignements. mais vraiment dans un esprit de totale confiance en disant, je sais que cette parole, elle est bonne pour moi, ce que me propose le Christ, ce que me propose le Dieu le Père aussi, non, au travers de la mission de son Fils, c'est bon pour moi, même si je n'en vois pas tout de suite l'intérêt ou le bénéfice immédiat, mais je sais que c'est ça, c'est cette voie-là qui est bonne pour moi. Oui, Abraham a eu la possibilité d'expérimenter deux fois, dans un sens positif et dans un sens négatif, cette obéissance dans la confiance. La première fois, c'est quand il est parti. Il a quitté Ur en Chaldée. Là, il a fait confiance à Dieu. J'y vais. Il ne savait pas où il allait. Il est parti, il a rassemblé tout son cheptel, sa troupe. Il est parti. Et il a pu voir combien de bénédictions il recevait derrière ça. Effectivement, il a reçu en héritage un magnifique pays. Bon. Et puis, un peu plus tard, dans le sens négatif, il n'a pas fait confiance à Dieu, c'est quand il, pour ce qui est de la postérité, hein, de la descendance, et ben, les années passées, il prenait de l'âge encore plus, sa femme aussi, bon, toujours pas d'enfant, et là, et ben, il s'est pris les pieds dans le tapis, comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a craqué, il a perdu confiance. Il faut dire ce qui est, il a perdu confiance. Et alors quand sa femme en plus lui a dit, écoute, les promesses de Dieu c'est bien gentil, mais peut-être il faudrait quand même assurer le coup, voilà ma servante, eh bien, va avec elle et fais une descendance avec elle, parce que avec moi, c'est cuit, c'est mort. Et Abraham a craqué. Et ça ressemble un peu à Adam et Ève, mais c'est pour la femme qui nous a fait rien dit. Bon. Je l'ai pas dit. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, catastrophe, dès le départ, hein, à peine le gamin il est né, ça commence déjà à poser problème à Ismaël, donc, est né. Jalousie entre Sarah, la femme légitime, et la servante, etc. Catastrophe, et jusqu'à nos jours, j'allais dire, puisque la descendance d'Ismaël, on le sait, va devenir une épine dans le pied d'Israël, jusqu'à la fin des temps, alors, jusqu'au retour du Seigneur. Les Juifs seront en prise avec la descendance d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes. Vous savez que les Arabes se réclament d'Abraham, hein, comme ancêtre, hein, puisque ben, par Ismaël, ils sont effectivement les descendants d'Abraham, comme les Juifs. Alors, quand la troisième possibilité de faire confiance à Dieu arrive, et ben, c'est celle que nous avons eue, alors là, il a compris la leçon. Il s'est dit, tiens, quand je fais confiance, c'est tout bon. Et puis quand je ne fais pas confiance, c'est tout mauvais. C'est pour ça que là, il obtempère. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui demande de sacrifier son fils. Je crois que c'était le pire. Le pire qu'il pouvait lui demander. Partir à l'aventure sans savoir où il allait, c'est de la petite bière à côté. C'est du détail. Attendre encore et peut-être n'avoir jamais d'enfant. Allez, ça passe encore. Mais là, tuer de sa propre main, avec un couteau, égorger son propre fils, qu'il adorait plus que tout, enfin, non, pas plus que le Seigneur, la preuve, c'était ce qu'il y avait de pire pour lui. Et là, Abraham obéit. Eh bien, laissez-moi vous dire que là, c'est absolument pas, il n'est pas question de contrainte, il est vraiment question d'une foi et d'une confiance absolue. C'est pour ça que dans les Épîtres, on voit Paul qui parle souvent de la foi d'Abraham. Hein, il prend cette foi comme référence et comme exemple parfait. Alors voilà quoi nous invite le Seigneur ce matin à une obéissance, mais surtout pas une obéissance dans la contrainte, faire son devoir. Nous n'avons pas une religion du devoir, nous avons une foi. Et une foi, vous savez, le mot foi, ça vient de la même étymologie que le mot confiance. Ce que nous propose le Seigneur, c'est de lui faire confiance. Un point, c'est tout. Alors parfois, c'est dur, c'est vrai que nous ne sommes pas patients, nous avons des problèmes, et puis on prie, mais on ne voit pas tout de suite arriver. Alors à ce moment-là, ben, peut-être pensons à Abraham, et surtout pensons à Jésus. Pensons à Jésus. Et voilà, c'est l'exhortation du matin, de ce matin. Ne cherchons pas dans l'obéissance stricte et contraignante une voie de salut, mais cherchons-la plutôt dans la confiance envers le Seigneur. Amen.